On va lire deux textes dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, le premier au chapitre 3 et au verset 18. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, je vous ai dit, et verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est ce qui m'intéresse, nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et puis un peu plus loin, quoique je vais vous le lire dans une transcription plus moderne, Alfred Kuhn, il dira ceci: Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que nous réfléchissons cette gloire. Elle vient sur nous et nous la renvoyons. Nous la réfléchissons. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage, de jour en jour, et en refléter une image toujours plus fidèle. Je répète, ainsi nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre, il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son Esprit. Amen. Et puis chapitre 4 et verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Le plus important, c'est cela, non? Parce que on ne pourra pas toujours avaler la façade. Malheureusement, c'est ainsi. Par contre, l'être intérieur, celui-là, il peut se renouveler. Et ça, c'est miraculeux, parce que la science nous rappelle que tout en nous s'use et s'abîme. On a l'âge de ses artères, hein, dit-on. Mais la réalité, c'est que spirituellement, Dieu peut faire un miracle. Et il est vrai que, je pense que vous êtes d'accord avec ça, la vie chrétienne est faite d'une multitude de décisions et d'actions, grandes ou petites, qui sont prises jour après jour, tous les jours. Vous savez très bien que toute décision, toute action génère forcément des conséquences. C'est une évidence. Et qu'elles soient grandes ou petites, ces décisions et ces attitudes, n'importe comment, la couleur, si je puis dire, de notre vie chrétienne reflétera la profondeur, l'intensité, la réalité de ce genre d'expérience. Alors j'ai envie de dire en 2018, si ça vous dit, je m'engage pour Dieu. Qui dit amen à ça? Amen. Tout le monde apparemment. En 2018, je m'engage à le servir. Ouais. Et en 2018, je m'engage à servir dans l'Église. Il y a moins de amen. Non, je plaisante. Je plaisante. Voilà. En 2018, je m'engage. En 2018, je m'engage. Peut-être que vous vous en souvenez, peut-être pas, l'année dernière, à la même période, je crois que c'était le 1er et le 8, ouais, c'était le 8 hein, qu'on avait prêché cela. Donc le dimanche 8 janvier 2017, nous avions parlé de l'Église, la famille de Dieu, que c'était bon d'être dans la famille de Dieu. Et notamment, on avait mis en avant l'importance d'être ensemble. Et on avait pris Actes chapitre 2, où il est dit que c'était ensemble qu'ils se retrouvaient. Actes 2, où... ouais, c'est ça. Ils étaient tous ensemble dans les maisons, tous ensemble, ils rompaient le pain, tous ensemble, ils priaient, tous ensemble. Il y avait plusieurs textes dans les Actes qui rappelaient cela. Alors cette année écoulée, si on fait le bilan, c'est vrai que l'on a bien été tous ensemble, non? On a été tous ensemble dans les combats, tous ensemble dans les batailles, tous ensemble dans les agapes. Hein, on a souvent été ensemble dans les agapes, et ça c'est bien. On a été tous ensemble dans l'évangélisation, quand on a fait des efforts d'évangélisation. vous avez joint votre main d'association, et ça c'est bien. Peut-être qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas été tous ensemble à la prière. C'est comme ça. L'après-midi, ça va bien, le soir, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, on est très, 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 très peu par rapport à ceux qui pourraient venir. Alors, tous ceux qui viennent, évidemment, ça ne leur fait rien que je dise ça. Mais on n'a pas été tous ensemble. Sur ce coup-là, on s'est raté. Donc, j'espère qu'en 2018, ça changera et qu'on sera tous ensemble un petit peu plus, parce que sans prière, on n'avance pas. La prière, c'est la chaudière de l'Église, c'est ce qui nous fait avancer. Et évidemment, on sait très bien les contraintes, les difficultés. Donc, je passe là-dessus, mais je pense à ceux qui auraient pu et qui n'ont pas fait. Et là, je me dis qu'on peut faire mieux et on pouvait vraiment faire mieux. Sur l'après-midi, ça se tient bien. C'est surtout le vendredi soir. Le vendredi soir, on peut faire mieux, sans aucun doute, sans aucun doute. Après, il y a les aléas de la météo et tout cela. Mais bon, malgré tout, alors en 2018, je m'engage. Et là, il n'y a plus personne qui dit « Amen ». Si, je m'engage. Amen. Je m'engage pour Dieu, comme en 2017. Je m'engage à le servir, comme en 2017. Je m'engage à le servir dans l'Église. Peut-être pas comme en 2017, mais ce n'est pas grave. C'est du passé maintenant. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a devant. Ce qui compte, c'est ce qui est devant nous. Et que Dieu nous aide à œuvrer dans ce sens-là. Alors, évidemment, les bonnes résolutions, elles sont importantes. Ce n'est pas noté là, mais je l'ai quand même noté. Et je vais vous l'aurez sur la diapo d'après, mais je peux vous le citer. En fait, on s'aperçoit que s'engager à servir Dieu, c'est pas pénible. C'est pas pénible, non. Je pense que ne rien faire serait pénible. Ne pas le faire serait pénible. Mais les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et si vous ne me croyez pas, croyez au moins l'apôtre Jean. Parce que c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Tout dépend sous quel angle je les pratique, sous quel angle je désire les pratiquer. Là, ça peut devenir pesant, difficile, si le cœur n'y est pas, si on n'a pas envie, comme on l'a entendu dans les dons spirituels, s'il y a de l'incrédulité, de l'amertume, de l'abattement, toutes sortes de choses qui entravent, évidemment, ça deviendrait pénible. Mais hormis cela, si le Seigneur permet que notre être intérieur puisse se renouveler de jour en jour, ça ne deviendra pas pénible. Et que Dieu nous aide. Ah, si les choses sont encore un petit peu pénibles, que Dieu nous aide à être régénérés par sa grâce et qu'ainsi nous puissions le faire avec joie, sans aucune pénibilité. Alors, il y a quelques petits principes que l'on pourrait mettre en place pour l'honorer et pour ne jamais baisser la garde, si vous voulez. Ne jamais délaisser ces quelques principes, ça nous maintiendra, je pense, intérieurement dans de bonnes conditions. Je vous rappelle les deux textes qu'on a lus en référence. L'important, c'est que nous soyons transformés jour après jour pour lui ressembler. 2 Corinthiens 3 et 2 Corinthiens 4, nous ne perdons pas courage. Parce que si malgré les apparences, on se dit « ça ne va pas assez vite, ça ne va pas comme je veux, ça ne va pas dans la direction que je veux », ce qui compte, c'est que intérieurement notre être soit renouvelé. Parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup d'impact sur l'environnement, les circonstances, mais vous avez un réel impact, c'est bête ce que je vous dis, mais vous avez un réel impact sur vous-même, ça oui. Sur l'environnement, c'est plus compliqué, mais sur vous-même, vous avez encore la décision. Vous avez encore l'impact, vous avez encore la possibilité de choisir et de décider. Et il va de soi, on l'a dit combien de fois cela, mais vous l'avez certainement bien en mémoire, il va de soi que quand ça va bien mieux dedans, bizarrement, ça va bien mieux dehors. C'est étonnant, hein ? C'est étonnant. J'ai toujours gardé à l'esprit ce témoignage. Il est vieux de 35 ans. J'avais entendu ça. J'étais tout jeune croyant et un certain dimanche, quelqu'un rendait témoignage de sa guérison. Cette personne avait été guérie physiquement. Cette personne était relativement jeune à l'époque. Il venait d'avoir avec son mari un enfant. Et cette pauvre femme souffrait terriblement. Elle avait à peine la trentaine. Elle souffrait déjà d'arthrose, et notamment d'arthrose cervicale. Mais épouvantable, épouvantable. Et elle est venue écouter l'Évangile, sa maman était croyante, elle ne marchait pas avec Dieu, et c'est ça qui l'a contraint à rentrer dans l'Église quand même. Et elle est venue à l'imposition des mains, et instantanément, elle a senti que quelque chose se passait dans son cou. Elle a senti les douleurs disparaître, mais instantanément. Et comment elle s'en est rendue compte, plus concrètement, c'est que quand elle est sortie, c'était un dimanche, il faisait grand jour, un grand soleil, pour la première fois, dira-t-elle, j'entendais les oiseaux chanter. Pourtant, les oiseaux devaient chanter les jours précédents et avant. Et je regardais, je levais la tête, ce qu'elle n'arrivait plus à faire, à cause de ses douleurs. Je levais la tête et j'avais l'impression qu'on avait mis de la couleur partout. Tout était gris pour elle, à cause de ses douleurs. Et on comprend l'image, évidemment. Et là, d'un coup, tout était lumineux. Elle n'en a plus jamais souffert. Elle a été délivrée pour de bon. Dieu délivre. Dieu délivre. Alors, c'est vrai que, finalement, son mal-être intérieur semblait avoir des répercussions à l'extérieur. Tout était gris. Alors que quand elle a été bien au-dedans, elle s'est rendue compte que rien n'était gris, mais tout était en couleur autour d'elle. C'était l'influence, évidemment, de l'action de Dieu sur sa vie. Ça avait changé son regard sur les choses. Et c'est encore comme cela que Dieu peut intervenir. Alors, quelques petits principes. Lire sa Bible tous les jours. Prier, intercéder tous les jours. Louer Dieu tous les jours. Et encore, s'encourager les uns les autres mutuellement tous les jours et porter sa croix tous les jours. Ce sont des bonnes résolutions pour 2018. Qu'en pensez-vous? Vous me dites, oui, mes frères, ça fait 40 ans que je fais ça. Peut-être pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde. Et peut-être que ces derniers temps, particulièrement, vous avez freiné, hein, largement freiné. Alors, pourquoi j'ai choisi ces cinq raisons-là? Parce que dans la Bible, vous les retrouvez textuellement comme ça, et à chaque fois, il y a une référence chaque jour. Donc si Dieu nous encourage à le faire, on peut le réentendre ce matin, certainement, et ça pourrait être une source d'encouragement. Et comme je vous le citais tout à l'heure, croyez l'apôtre Jean, ses commandements ne sont pas pénibles, pourquoi? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, soyez encouragés ce matin et prenez de bonnes résolutions. La première d'entre elles, lire sa Bible tous les jours. D'ailleurs, inutile de vous le rappeler, mais c'est possible. Hein. Ouais, là, vous avez un calendrier pour l'année. Hein. Tous les mois, vous aurez la lecture suivie. D'ailleurs, elle est même chronologique. C'est assez intéressant pour certains textes des prophètes, etc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le prendre n'importe quand. Hein. Finalement, puisque c'est récurrent, n'importe quand, faites-le, faites-le. Je suis persuadé qu'au milieu de nous, certains n'ont jamais, jamais lu toute la Bible. Ils en ont lu une grosse partie, ils en ont lu une bonne partie. Ils ont dit, 1er janvier, j'attaque, et ils ont craqué le 12 juillet, parce que. Ou alors le 15 avril, ou alors le 12 janvier. Voilà, ils ont pris un peu de retard, ils ont dit, je rattraperai demain. Et ils ont rattrapé le lendemain, et puis le mois d'après, ils ont eu 4 jours de retard. Ça a été un peu plus long, évidemment, parce que là, ce n'est pas 2 chapitres qu'il faut lire, c'est 8, c'est 10. Voilà, et puis on a craqué, puis on a dit, oh, je recommencerai l'année prochaine. Faites-le cette année, faites-le, lisez votre Bible tous les jours. On va prendre un verset, un chapitre plutôt, en témoignage de cela, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie. C'est quand même assez important. Même si on est dans l'Ancien Testament, il y avait quand même des valeurs qui, elles, ne changeaient pas. Et ces valeurs étaient inspirantes. Et il nous est rappelé plusieurs repères. Pour vous remettre les choses en contexte, quelque temps auparavant, un roi, un empereur, un roi qui avait énormément d'emprise sur le monde dans lequel il vivait, il s'agit du roi Cyrus, va être, curieusement, inspiré miraculeusement par Dieu. Et Dieu va ordonner à ce roi de libérer un certain peuple qu'il tenait en esclavage et de leur donner la permission de rentrer chez eux pour qu'ils rebâtissent leur pays. Ça, vous le trouverez nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Un empereur de cet ordre-là, un roi, en général, quand il soumet, il veut garder le pouvoir et il soumettra tout le temps. À jamais rendre la liberté aux autres, sinon il sait très bien que son avenir dépend de la situation de ces peuples-là. Et là, Dieu va l'enjoindre, ça va être une obligation de libérer ce peuple. Alors ils vont s'en aller pour reconstruire, dans un premier temps, leur piété. Et ça va être conduit par un homme qui s'appellera Esdras. Et dans votre Bible, ce n'est pas pour rien que vous avez le livre d'Esdras et tout de suite après le livre de Néhémie, parce que les périodes sont contemporaines et elles se suivent et elles s'entremêlent l'une l'autre. Dans un premier temps, Esdras arrive et cet homme qui était un religieux va dire « La ville de Jérusalem, elle est en ruine. L'important, ce n'est pas de rouvrir les magasins. Le plus important, c'est de rebâtir le temple. » Le temple. C'était quand même très bien vu, hein, de vous à moi. C'est très intelligent. Rebâtir son identité spirituelle, c'était la chose la plus importante. Et donc, c'est ce qu'il fera dans le livre d'Esdras. Voilà comment les choses se terminent au chapitre 6. Les enfants d'Israël, verset 16, les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Alors, c'est une première étape. Premier échelon, première marche. Ensuite, il faut rebâtir l'identité nationale. On est parti sur le religieux, maintenant il faut rebâtir le peuple. Donc, pour bien le rebâtir, on a pensé qu'une première chose à faire serait de rebâtir la muraille qui entourait la ville de Jérusalem, parce qu'elle était détruite, les portes étaient consumées par le feu. Le témoignage qu'en rendra Néhémie était à pleurer, à pleurer. Donc, quelques temps plus tard, Néhémie retourne à Jérusalem, après avoir reçu des nouvelles alarmantes. Le peuple est dans la confusion, malgré qu'ils aient le temple, malgré qu'ils aient, si vous voulez, rallumé le moteur, malgré qu'ils aient repris confiance en eux en disant « On est chez nous, on peut célébrer Dieu ». Au bout d'un moment, quand vous voyez qu'autour de vous, il n'y a rien qui change, que tout est brisé, détruit, ça use votre foi, votre espérance. Alors, on a voulu rebâtir cette identité en rebâtissant la muraille. Et là, c'est Néhémie qui en parlera. Ça a été difficile parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, évidemment. Certains se sont dit, le jour où ils auront rebâti toute la muraille, ils vont être à l'intérieur bien forts, bien sûrs d'eux, et on ne pourra plus avoir la main sur eux. Vous ne croyez pas que la volonté de Dieu, c'est de vous rendre forts face à toutes les difficultés? Vous ne croyez pas que la volonté de Dieu, c'est de réparer les brèches qui sont là et qui assaillent notre vie au quotidien, sous différentes formes, on l'a entendu tout à l'heure dans les dons spirituels, j'y reviens pas. Est-ce que vous ne croyez pas que la volonté de Dieu, c'est de réparer toutes ces brèches? Certainement. Et Néhémie a travaillé sans relâche. Et il l'a fait, et il l'a fait, et il l'a fait encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu du succès. Il nous est dit, on trouve cela au chapitre 6, qu'en 52 jours, la muraille était complètement rebâtie. Ça n'a pas été simple, parce qu'à un moment donné, il a même fallu continuer à travailler avec l'épée dans une main et la truelle dans l'autre. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que Dieu nous fait travailler aujourd'hui. Ouais, avec l'épée de l'esprit d'un côté, l'épée de la parole d'un côté, et la truelle, les choses pratiques à faire qu'il faut mettre en œuvre. Et ça a marché. Ça a marché. On est arrivé à un résultat exceptionnel. Et puis arrive le chapitre 8. C'est là où je vous interpelle. Chapitre 8, on voit de l'engagement, de la consécration et de la sanctification. En fait, pour être bien guidé dans cette démarche, on a décidé de faire la lecture du livre de la loi. On pourrait faire un parallèle aujourd'hui. Pour être bien guidé dans notre vie tous les jours, on a besoin de faire la lecture de la parole de Dieu tous les jours. Et regardez comment ça s'est fait. Chapitre 8 du livre de Néhémie, verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, c'est toujours le même, hein, Esdras, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et le sacrificateur, Esdras, apporta la loi devant l'assemblée. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes, et écoutez, de ceux qui étaient capables de l'entendre. Verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple sur une estrade. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place un peu plus loin, verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Et puis enfin, le verset 18, on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On avait calculé 7 jours de fête. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. On lut dans le livre de la loi chaque jour. Vous comprenez bien que quand on lit chaque jour dans la parole de Dieu, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. On les a là, finalement. Ces conséquences, je peux vous citer le verset 12. Ils partirent pour manger et boire, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Il n'y aurait rien de plus terrible que de s'en aller après avoir lu la Bible en disant « Pouh, j'ai rien compris ». C'est frustrant, hein ? C'est frustrant de dire « Je comprends rien ». On va venir à l'église, on écoute l'évangile, « Je comprends rien ». C'est frustrant, évidemment. Je me souviens, il y a très très longtemps, j'étais jeune croyant et on était venu avec plusieurs à la colo de Gap. Il y avait eu un séminaire d'été, un séminaire avec études bibliques et on avait eu envie d'y aller à quelques-uns. Alors ça avait rassemblé les jeunes un petit peu partout. Et à l'époque, un homme président des assemblées de Dieu d'un pays européen était venu et avait décidé de faire une étude sur le livre du prophète Osée, petit prophète, le prophète Osée. Et pour moi, c'était traverser l'océan Pacifique, c'était impossible. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Comment rendre compréhensible ce qui est totalement incompréhensible? Et on s'est régalé pendant une semaine, quoi. Ce qui était compliqué à mes yeux est devenu limpide, clair. J'aurais été incapable de le redire, d'ailleurs, hein, mais c'était clair. C'était tellement facile à comprendre. Eh bien, vous savez quoi? On était tous heureux d'être là. Eh oui, parce qu'on comprenait. Une autre fois, parce qu'il y avait d'autres ateliers et on avait eu une discussion, un échange avec quelqu'un sur un thème particulier. Et là, ça n'avait pas été la même chose, ça avait été très compliqué. Et pour la plupart, on n'avait rien compris à cet échange, rien. On n'était peut-être pas assez intelligent, on n'avait rien capté. Et en sortant, alors on était un peu frustrés, et puis un de mes amis... on en parle, je lui dis, t'as compris quelque chose? Parce que moi, j'ai rien compris. Il me dit, ah oui, 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 moi, j'ai compris une chose. Hein. J'ai compris une chose. C'est qu'avant, je pensais être intelligent, maintenant, je suis sûr que je ne suis pas. J'ai compris une chose. bref, depuis, on a évolué. On est devenu intelligent, on comprend mieux. Mais franchement, ça fait plaisir quand on lit et qu'on comprend. Ça fait plaisir. Et eux, ils se sont réjouis de cela. La première conséquence, c'est que quand vous lirez la parole, vous vous réjouirez. Je me rends compte, ne me dites pas si je me trompe, laissez-moi dans mes illusions, mais je me rends compte qu'avec les smartphones, on lit de moins en moins la Bible. Déjà parce qu'on ne l'amène même plus à l'église. Quand je vois, et quand je dis on va lire, je vois qui a sa Bible et qui ne l'a pas. Bon. Maintenant, vous l'avez sur vos smartphones, j'en conviens. Ceci étant, le smartphone, on peut l'oublier à la maison. Et j'ai entendu ça de quelqu'un, de me dire, c'est vrai que j'emmène plus ma Bible, mais je l'ai sur le téléphone, et souvent, je l'oublie à la maison, mon téléphone. Bref, donc, quand vous êtes là, vous ne lisez pas. Mais non, puisque c'est sur le téléphone. Donc, je m'aperçois que la technologie d'aujourd'hui, elle est très bien, puisque moi aussi, je l'ai. Hein. D'ailleurs, quand je fais mes visites avec mon téléphone... application Bible, c'est plus pratique. C'est plus pratique parce qu'avant, j'utilisais les petits Nouveaux Testaments comme ça, les Nouveaux Testaments Gédéon. Le problème maintenant, c'est que je lis plus rien. C'est écrit trop petit. J'arrive plus à lire. Et comme je n'ai pas l'habitude de transporter mes lunettes avec moi, avec le téléphone, c'est parfait. C'est beaucoup plus gros. Hein, c'est plus facile à lire. C'est la même Bible, pas de problème. Sauf que je crains qu'aujourd'hui, on lise moins qu'avant la Bible. Pour quelle raison, allez savoir. En tous les cas, le diable s'en servira de cela. Parce que moins vous lisez, moins vous comprenez ce qui vous arrive. Parce qu'il me semble que quand on lit la parole de Dieu, regardez dans ce qui est arrivé dans ce chapitre 8, la parole donnait du sens à leur piété. Cette parole donnait du sens à leur engagement, l'air de dire « vous n'avez pas fait tout ça pour rien ». Vous voulez redresser votre pays, vous voulez retrouver une dignité spirituelle, nationale, vous voulez exister, eh bien vous existez. Et en lisant la parole, ils venaient de se rendre compte qu'ils n'avaient fait qu'accomplir ce que Dieu leur avait déjà demandé. C'est beau quand même, hein, quand vous faites quelque chose et quand vous dites « waouh, je ne savais pas, mais Dieu voulait que je le fasse ». Ça, c'est encourageant. Quand on sert Dieu de cette manière-là. Dans l'épître de Jacques, vous connaissez certainement ce verset aussi, je vais vous le citer. Retenez la référence, si vous voulez, Jacques chapitre 1er et verset 23. Il nous est dit que celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura lu sa Bible tous les jours, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Heureux dans son activité. Heureux. Frères et sœurs, vous le savez, ça ne sert à rien de vous le redire. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez heureux dans votre vie chrétienne. Eh bien, la parole donne du sens à nos engagements. Quand tout ce que l'on voit taille en brèche nos espoirs, la parole donne du sens, elle nous explique pourquoi on le fait. Elle nous explique pourquoi il faut tenir. Elle nous explique comment on tiendra. Elle nous explique comment on y arrivera. Elle nous explique tout cela. Ça donne du sens à notre piété et ça donne raison, me semble-t-il, à notre engagement. Ensuite, prier et intercéder tous les jours. Alors, il y a pas mal de textes hein, qui en parlent. J'ai choisi le psaume 77. On ne va pas le lire, parce qu'il est long. Mais quand même, c'est un psaume d'Asaph, d'après Jeduthune, voilà comment il s'appelait. Donc, on va dire que c'est auteur-compositeur. Voilà, c'est un travail d'équipe. On a composé ce cantique. Quand vous lisez ce cantique, vous êtes mal à l'aise quand même, parce qu'il est drôlement raide ce cantique. Il n'est pas très joyeux, il faut le reconnaître, il n'est pas très heureux. Ce sont des jours troublés, sans joie. C'est des nuits blanches qui ont tourmenté le psalmiste. Et vous le lirez, le psaume 77, hein. Tout revient dans ce psaume. Il a passé, il a fait des cauchemars, il n'était pas bien. Mais ce qu'il y a d'incroyable, c'est que malgré tout, il arrive quand même à dire... Autant il dit « Pourquoi Dieu ne m'exauce pas ? Pourquoi Dieu m'oublie ? Pourquoi il ne fait rien ? Pourquoi il me laisse tomber ?» Mais dans le même chant, il dit ça. Dans le même chant, il dit « Ceci, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je raconterai tes hauts faits. » Et puis, tes voix sont saintes. « Quel Dieu est grand comme toi ? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté ta puissance par ton bras. » Tu as délivré ton peuple, notamment. Voilà ce qu'il dit. Ceci étant, il a de gros problèmes, parce que par ailleurs, il voit que son quotidien, il n'est pas comme ça. Mon esprit médite, je fais des réflexions au-dedans de moi, je médite, mon esprit est abattu, tu tiens mes paupières en éveil, des nuits blanches, dans mon trouble, je ne peux parler, je pense au passé, oui, ça allait bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas du tout au jour de ma détresse. Je cherche le Seigneur. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde ? Ce qui fait ma souffrance, c'est que le Très-Haut, la droite, pardon, du Très-Haut, sa force, n'est plus la même. Vous comprenez qu'il est frustré, parce qu'il ne va pas bien. Son quotidien est terrible. Son quotidien est affreux. Il ne va pas bien. Il ne comprend pas. Ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que, en fait, ce qui le tourmente jour et nuit, ce qui fait qu'il n'est pas heureux, c'est pas son incrédulité. C'est précisément le contraire, c'est sa foi. Parce que s'il était incrédule, ma foi, ben, vous récoltez ce que vous semez, vous vivez comme ça, c'est le destin. Mais il a la foi. Il a la foi. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que Dieu fait des prodiges. Il sait que Dieu fait des miracles. Et là, il dit, mais pourquoi Dieu ne le fait pas ? C'est sa foi qui le trouble. Ce n'est pas son incrédulité. C'est parce que précisément, il croit à la puissance de Dieu, en un Dieu qui a tout pouvoir, en un Dieu qui fait des miracles. Sauf que maintenant, il ne fait rien. C'est ça qui le trouble. Alors, s'il ne priait pas tous les jours, ben, il aurait fini dans un asile ou en dépression nerveuse. S'il n'avait pas invoqué Dieu tous les jours. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Quand l'abattement est sur vous, quand vous êtes accablé de toutes sortes, ne comprend pas pourquoi Dieu n'intervient pas et laisse, pas que lui d'ailleurs, mais son peuple entier, dans l'esclavage. Il ne comprend pas cela. Alors, puisqu'il ne comprend pas, il prie. Et parce qu'il prie, il y a plusieurs conséquences. Et notamment, au travers de ces quelques versets, Dieu lui rappelle, et il va s'en souvenir, qu'il est dépendant de Dieu. Je ne gère pas mon avenir, je ne gère pas mon quotidien. C'est Dieu qui peut le gérer pour moi. En tous les cas, si j'essaie de le faire moi, ce ne sera jamais aussi bien que si lui le fait. Et même quand ça ne va pas, il vaut mieux que je sois dans sa main que hors de sa main. Il vaut mieux que je sois sous son regard plutôt qu'en dehors de son regard. Et quand ça ne va pas bien, je préfère être près de lui que loin de lui. Je préfère. La bénédiction sera certainement beaucoup plus réelle et authentique et plus prompte à arriver. Alors il médite, il le dit, je fais des réflexions dedans de moi, je réfléchis. Il se pose, il médite. C'est bien de le faire. Quand tout va bien, on est à 100 à l'heure et on ne réfléchit pas trop, ça va bien. Quand tout va mal, on est peut-être aux 400 coups et ça ne va pas non plus. Quelquefois, il faut s'arrêter et dire, bon, maintenant, stop, quoi, stop, j'arrête. Je me pose et je réfléchis. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qui nous est arrivé en 2017 ? Qu'est-ce qui nous est arrivé depuis 2016, 15, 14, 12, 10, depuis 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans ? Qu'est-ce qui nous est arrivé ? C'est bien de se poser, c'est bien de réfléchir. Et si vous le faites avec un esprit de foi, en priant, eh bien Dieu vous rappellera sa vision, et Dieu vous rappellera que sa vision est plus élevée que la vôtre. Verset 14, « Ô Dieu, tes voies sont saintes, quel Dieu est comme toi ?» Verset 20, « Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. » Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies, c'est la Bible qui le dit. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. On peut profiter de sa grâce, mais on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Il est Dieu. Il est Dieu. Ceci étant, ça peut être malgré tout une grâce pour nous, parce que si on n'a pas besoin forcément de comprendre, on a juste besoin de se soumettre. On a juste besoin d'accepter d'être conduit par lui. Accepter. Et quand on fait cela, eh bien la prière est notre recours. Frères et sœurs, priez et intercédez tous les jours. Il y a des jours où on n'a pas envie de le faire. C'est justement là qu'il faut le faire deux fois plus. Deux fois plus. Quand ça ne va pas, faites-le. La prière, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut exercer tous les jours. Et puis, une bonne résolution pour 2018, louer Dieu et le louer tous les jours. Alors, on a tous des raisons, je mets légitime entre guillemets, de se plaindre. Parce qu'on se plaint. Hein. Il n'y a pas que moi qui se plaint. Hein. Vous aussi, j'en suis sûr. Parce que ça fait partie de la nature humaine. On se plaint. Se plaint, c'est jamais bien, c'est jamais comme il faut, c'est jamais comme suffisant, jamais. Psaume 145, verset 1er. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Verset 2. Chaque jour. Amen. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Et vous avez la raison qui explique. Cette adoration, et tout est dit dans ce psaume 145. Je pense qu'on a tous des paroles dures tous les jours. On a tous des paroles dures tous les jours. Parce que ça, c'est l'émanation de notre nature pécheresse. C'est comme ça. Tant qu'on n'est pas au ciel, on sera lié par ces choses-là. Sauf que vous comprendrez aisément que bénir Dieu, ce n'est pas une obligation. Mais je crois que c'est un devoir. Ce n'est pas une obligation. C'est plus que ça. C'est un devoir. Je dois le faire. Parce qu'il est digne de notre adoration. Pourquoi vous êtes venus ce matin? Que pour la Sainte-Seine? Que pour la parole? Que pour rencontrer les frères et sœurs? Vous êtes venus pour lui. Vous êtes venus pour le louer. Vous êtes venus pour l'honorer. Mais vous êtes venus aussi pour vous humilier devant Dieu. Pour toutes les paroles dures qui ont été à l'inverse de ce que vous pratiquez ce matin, qui ont été dites cette semaine, vous comme moi. Et oui, on a besoin de réaliser cela. Alors, bénir Dieu, ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Le remercier, il me semble que c'est le moins que l'on puisse faire. C'est le moins qu'on puisse faire, évidemment. Alors, je crois que plus je bénis Dieu, plus je prends position. Tout à l'heure, on a prié pour la maladie de Salia. On a pris position. On a proclamé la guérison au nom de Jésus. Et je crois au miracle. Et vous croyez au miracle, hein ? On croit au miracle. Prends position. Et quelquefois, prendre position, c'est pas loin de prendre possession. Je me tiens au bon endroit pour prendre. Si je ne prends pas position, si je suis très loin, je ne prends jamais, c'est trop loin. Prendre position, c'est prendre possession aussi de ces victoires-là. Et je pense que c'est important et nécessaire. Alors, pour quelles raisons peut-on louer Dieu tous les jours? Mais vous en avez quelques-unes dans ce psaume 145, verset 3, sa grandeur, verset 8 et 17, sa grâce, verset 11 et 12, sa gloire, verset 15 et 16, sa générosité. Alors, serez-vous un exemple dans ce domaine-là? Verset 4, on le lit ensemble, et verset 10. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Ici, dans cette salle, il y a une, deux, trois, quatre générations à peu près. Entre des petits-enfants, leurs parents, les grands-parents, et peut-être au-dessus. Entre trois et quatre générations. Que chaque génération te loue. Ce n'est pas parce que la génération d'avant a super bien loué Dieu que la génération d'après est exempte de le faire. Qui plus est, elle a un tellement bel exemple qu'elle devrait faire mieux encore. On devrait faire mieux à chaque fois. C'est pas vrai? Ben oui, forcément. Je me souviens, là aussi, il y a longtemps, d'avoir assisté à un séminaire et un des prédicateurs était un pasteur canadien, canadien anglophone. Et quand il s'est présenté à la première réunion, il a expliqué qui il était. Et ça m'a fasciné quand j'ai entendu ça. C'est un homme qui avait 35 ans à peu près, et il explique qu'il est né dans une famille pastorale. Son père était pasteur. Son père était né dans une famille pastorale. Donc vous comprenez que le grand-père était pasteur. Et le grand-père était né dans une famille pastorale. Quatre générations. Quatre générations. Vous savez quoi? Je me suis dit à celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Je me suis dit que le quatrième dans la lignée, là, il devait être encore meilleur que le premier, à cause de ce qu'il avait reçu de son père, du grand-père et de l'arrière-grand-père. Je suis convaincu de ça. Vous qui êtes enfants de chrétiens, vous devriez être meilleurs que vos parents, parce que vous avez reçu déjà le témoignage de vos parents, et Dieu vous demande dans cette génération-là de porter l'évangile encore plus loin. Vos parents vous ont béni. Vos parents, depuis que vous êtes nés, ont prié pour vous. Quelque part, ils ont mis sur vos épaules une sacrée responsabilité quand même. Mais quelle bénédiction vous avez accordée à vos enfants. Et franchement, on n'aurait pas de mal à dire nos enfants sont meilleurs que nous, hein, non? Ou alors, si ça ne vous plaît pas, c'est dommage. Hein, c'est tellement bien que nos enfants fassent mieux que nous. C'est tellement bien qu'ils fassent plus. Alors une bénédiction repose sur vous qui êtes les enfants. Après, l'enfant fait ce qu'il veut. Hein. Et malheureusement, certains ici savent que leurs enfants n'ont pas fait ce que vous, vous avez espéré d'eux. Après tout, le monde n'est pas encore clos, la grâce et la porte est encore là, c'est encore ouvert, alors on prie que Dieu le fasse. Les ouvriers de la dernière heure, certainement qu'ils reviendront à un moment donné, mais vous comprenez que chaque génération le loue, ça veut dire qu'on devrait être capable de le louer mieux, plus encore, que ne l'ont fait les générations passées. Et vous savez quoi? Moi, je me dis que normalement, tous les dimanches, la louange devrait être meilleure que le dimanche d'avant. Dieu nous a bénis une semaine de plus. Dieu nous a accordé sa grâce une semaine de plus. Même si vous avez eu des galères, mais Dieu vous a fait grâce. et il y a bien des fardeaux que vous avez déposés, donc le louer, je pense que c'est une bonne raison. Alors, verset 4, « Que chaque génération célèbre les œuvres et publie ses hauts faits », et verset 10, « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront », et c'est ce que nous sommes. Enfin, s'encourager mutuellement tous les jours. Hébreux, chapitre 3, verset 13. Hébreux, chapitre 3, verset 13. Cette expression est étonnante. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Vous l'avez déjà remarqué, cette expression ? Ouais, vous l'avez déjà lu ? Peut-être pas. Je répète, exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Dites-moi, c'est tellement important et c'est tellement bon de s'encourager les uns les autres. Je crois qu'on a... C'est plus facile de critiquer que de féliciter. Hein. Ça, c'est une spécialité française. Hein. Quand tout va bien, on ne vous le dira jamais. Par contre, quand ça va mal, on vous le dira toujours. Dans d'autres pays, ils fonctionnent autrement. Ils sont toujours là, encouragés. Bon, c'est culturel, hein. Après tout, on fait avec. Hein. De toute façon, on est moulé là-dedans, donc ça nous convient quand même, malheureusement. Sauf que, pour nous, manifestement, c'est plus facile de critiquer que de féliciter, mais j'aimerais vous dire qu'on a toujours trop critiqué et on n'a jamais assez encouragé. C'est une évidence. On a toujours trop critiqué, jamais assez encouragé. Vous savez que quand vous vous adressez à un frère, à une sœur, par vos critiques, par vos attaques, par vos paroles dures, vous affaiblissez un croyant qui est déjà fragilisé. Vous l'affaiblissez davantage. Vous n'allez pas lui faire entendre raison, vous n'allez pas lui expliquer, vous n'allez pas... Vous n'êtes pas plus fort, pas plus intelligent que le Seigneur. Par contre, vous lui faites plus de tort que de bien. Ça lui fait du bien de l'entendre, il fallait qu'il l'entende, qu'elle l'entende. Par contre, par vos encouragements, par votre douceur, quelquefois même par vos silences, hein, parce que certains nous disent des choses, il faut se mordre les lèvres pour ne pas répondre. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, il faut se mordre les lèvres. Hein. Parce que si on s'écoutait soi-même, ils en prendraient pour leur grade. Hein. Et ce ne serait pas volé, hein. Mais par nos silences, ouais, je pense, et puis par votre présence, quelquefois, vous avez soutenu les combats de ces frères et sœurs. Ce n'est pas votre problème de savoir pourquoi il est grincheux, il est en colère, il ne va pas bien, etc. Votre problème, c'est qu'il aille mieux. Votre problème, c'est qu'il aille mieux. Votre problème, c'est qu'il se relève. C'est son affaire avec Dieu. Évidemment, si c'est contre vous, c'est dur à avaler. Mais peut-être que vous pouvez comprendre que si il en est arrivé là, elle en est arrivée là, c'est que ses problèmes sont encore plus grands qu'on peut l'imaginer. J'insiste pas. Tout est dit à l'écran. On a toujours trop critiqué, on n'a jamais assez encouragé. Frères et sœurs, exhortons-nous les uns les autres chaque jour. C'est dit, hein, chaque jour. Et c'est redit, c'est une répétition, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Parce que sinon... Qu'est-ce qui va se passer ? Le cœur ne s'endurcisse par la séduction du péché. Au fur et à mesure, on ferme la porte à ceux qui ont besoin d'entrer, par nos critiques, par nos paroles dures. Alors encourageons, soyons remplis de douceur, faisons silence, soyons présents. Et il doit rester une dernière chose, c'est la conclusion, mais c'est également un dernier aspect qui est aussi très important, à savoir porter sa croix. Dans l'évangile de Luc, on peut le lire ensemble, l'évangile de Luc, chapitre 9 et verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour qu'il se charge de sa croix. C'est notre responsabilité parce que c'est notre prise de conscience. La vie chrétienne, c'est tous les jours, bien-aimés. Ça sera toujours tous les jours. La vie chrétienne et la marche avec Dieu, c'est chaque jour. Et vous voulez que je vous dise, le plus important, c'est aujourd'hui. C'est pas hier. J'ai envie de dire, c'est plus hier. De toute façon, hier est passé. C'est pas encore demain. Parce qu'il y a des gens qui font toujours des projets. Je vais faire, je vais. En attendant, ils ne font rien. Et demain devient aujourd'hui. Et vous leur demandez, tu as fait quoi ? Non, mais en fait, je vais faire. Toujours je vais. L'important, c'est aujourd'hui. Ne vous cassez pas la tête pour savoir qu'est-ce que vous ferez demain, après-demain, dans 10 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? C'est ça le plus important. Et puis, on pourrait revenir sur le passé, mais il est douloureux pour tout le monde. On n'a pas fait ce qu'il fallait. On a fait trop mal, pas assez bien, etc. On peut tous se faire des reproches quand on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. L'important, c'est aujourd'hui. Alors, la résolution pour aujourd'hui, c'est peut-être de se dire, non pas « qu'aurait fait Jésus à ma place ?» mais « que ferait là maintenant Jésus à ma place ? » Qu'est-ce qu'il ferait là maintenant ? Posez-vous la question chaque jour. Que ferait Jésus maintenant là ? Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il dirait ? Comment il se comporterait ? Alors, les résolutions pour 2018, on se les rappelle ? Lire sa Bible tous les jours, prier et intercéder tous les jours, louer Dieu tous les jours, s'encourager mutuellement tous les jours et porter sa croix tous les jours parce que ses commandements ne sont pas paisibles, parce que je m'engage pour Dieu, parce que je m'engage à le servir, parce que je m'engage à servir dans l'Église, être un vrai chrétien engagé chaque jour. Vous vous rappelez 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 4, que vous soyez renouvelés à l'intérieur. Le renouvellement à l'intérieur, ça passera juste par ces principes de base. Faire des progrès chaque jour, aspirer à plus chaque jour et servir mieux de jour en jour. C'est pas mal quand même, hein ? Les résolutions pour 2018, être un chrétien engagé chaque jour, pas juste 3 mois dans l'année, vous n'êtes pas des intermittents. Hein ? Chaque jour, faire des progrès chaque jour, aspirer à plus chaque jour, et servir mieux jour après jour. Amen.